Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30 depuis notre studio, en présence de nos participants du jour. D'ailleurs, on a beaucoup de nouveaux participants. On a Marie, on a Philippe, on a Christine, on a Jean-Luc, on a Suzanne, on a Ibrahima, on a Eliane, on a Fabrice, on a Elvio, Joël, pour échanger et réagir autour d'un thème proposé qu'on aura en fin d'émission, un thème proposé par l'un de nos participants qui est autour de la tendresse. Sans oublier également nos chroniques phares, les rencontres de Mike, le grand retour de la ménagerie d'Eliane. Bonjour Eliane.
Bonjour à tous.
Et nous accueillons Joël pour une toute nouvelle chronique qui s'intitule « Joe les bons tuyaux ».
Bonjour tout le monde.
Bonjour, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission, émission que vous retrouverez dans son intégralité en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Place à Joël et cette magnifique nouvelle rubrique.
Joe, les bons tuyaux.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Joël, je présente une petite rubrique sur l'anti-gaspi et aujourd'hui nous allons parler des légumes. Comme nous sommes dans la belle saison, les légumes c'est très important. On va commencer par comment les acheter. Donc il y a différentes méthodes pour faire des économies, c'est en profitant des offres dans les grandes surfaces, mais vous avez aussi une application qui est fantastique. Et qui, si vous avez Twint, qui est très très pratique, c'est Too Good To Go, qui propose donc des paniers de fruits et de légumes. Il y a aussi la vente directe chez le maraîcher, qui est formidable. Le maraîcher, il vous prépare un petit carton avec sa production, et vous payez à moindre prix, et le maraîcher encaisse la totalité de ses gains. Maintenant, on va parler de justement comment les conserver, ces fameux légumes. Admettons que vous achetez une certaine quantité de poivrons ou de tomates. Enfin, ça peut être des légumes en une certaine quantité. Donc, il y a la possibilité de les cuisiner tout de suite et ensuite de les congeler. Donc, vous avez un plat cuisiné que vous allez congeler et pouvoir consommer dans les 3 mois, voire un peu plus. Vous avez la possibilité de les transformer. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la lactofermentation. Vous avez plein de recettes sur Internet. Des pickles. Le pickles, c'est aussi la mise sous vinaigre. Vous avez là aussi, vous pouvez acheter un livre. Et aussi, vous trouvez plein de recettes très sympas sur Internet. Vous pouvez les sécher. Donc, je pense surtout aux tomates et aux piments. Vous les faites sécher. Et ensuite, vous les mettez à l'huile. Et les champignons, vous pouvez aussi les sécher. Si vous aimez aller au bolé, au mori, là maintenant ça commence les moris, ben vous pouvez les sécher et les garder pour vos futures sauces ou préparations. Il faut bien penser aussi à avoir soit des sacs de congélation, soit des contenants pour le congélateur, des bocaux et des bouteilles. Un bon conseil que je vous donne avant d'aller acheter, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, ou sur Marketplace, il y a plein de gens qui les donnent. Mais vous pouvez aller les chercher gratuitement. Alors jetez un coup d'œil justement sur ces réseaux, parce que ça vaut vraiment la peine. Une autre chose, quand vous utilisez les bocaux et les bouteilles, toujours pensez à les stériliser. Le mieux, c'est mettre les capuchons à bouillir dans une casserole et les bocaux à 140 degrés dans le four, environ une demi-heure. Si vous avez une cave ou un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière, vous pouvez acheter, il y a certains primeurs, il y a certains magasins qui proposent une certaine quantité, que ce soit des pommes de terre, des oignons, de l'ail, des betteraves, des légumes racines. Alors vous pouvez les conserver des mois dans votre cave. Ça ne pose aucun problème. Du moment que ça abrite à l'abri de la lumière, vous pouvez les conserver 5-6 mois. Voilà. Et pour finir, je vais juste me faire un petit peu de pub, parce que ça mérite bien de la pub. Achetez les légumes du pays. Voilà. Actuellement, c'est les asperges. acheter vraiment les légumes du pays et profiter des offres. Scroller et profiter des offres des grands commerces et des différents commerces qui sont à proximité de chez vous. Merci.
Merci.
Le direct.
Bravo Joël pour cette toute première rubrique Joe, les bons tuyaux. Alors franchement, il y a plein de choses que j'ai entendues qui sont très intéressantes, hein, que vous nous avez partagées. J'invite tous nos auditeurs et auditrices, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de petits tuyaux. N'hésitez pas à aller sur le site pavillonnomade.ch, hein, vous retrouverez l'émission dans son entièreté, vous allez pouvoir mettre des pauses pour pouvoir reprendre tous ces tips. Alors, je vois que ça avait déjà fait réagir autour de la table. On a Eliane qui avait envie de vous poser une question.
La question que je me pose, c'est congélateur ou cave pour ces légumes ? Ou si c'est propre à chaque légume ? Par exemple, le poireau, où on le met ? On le met à la cave ou on le met au frigo ?
Le poireau, ce n'est pas un légume qui a super longtemps. Donc moi, ce que je vous propose, c'est soit de le blanchir et de le mettre avec peut-être plusieurs autres légumes. Ça peut être la carotte, ça peut être l'oignon et tout. Vous faites un petit mix, par exemple pour faire un minestrone, admettons, ou le poireau tout seul pour faire un papé. Ben, vous allez soit le blanchir, soit vous pouvez le mettre cru directement au congélateur. Mais bien le nettoyer avant, par contre. Ça, c'est très important. Le poireau, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous le dégelez, il ne se colore pas. Donc, vous pouvez le blanchir, mais vous pouvez aussi le mettre cru. Ça ne bouge pas.
Merci, Joël.
De rien.
Merci. Alors, je ne sais pas si autour de la table, vous avez comme ça, pour rester bien dans le thème qui est aujourd'hui celui des légumes, hein, Joël nous a parlé de quelques tuyaux. Est-ce que vous avez aussi peut-être des petits tuyaux, que ce soit de conservation ou de comment on fait attention à cette, on pourrait dire, l'anti-gaspillage ? Christine, alors on va passer un micro à Christine. Bonjour, Christine.
Bonjour. Écoutez, moi, ça m'a renvoyé dans mon enfance parce que ma maman séchait tout. Elle trouvait que le plastique pour les mettre au congélateur, c'était pas sain. Elle trouvait que les bocaux, il n'y avait pas assez de place à la cave. Donc, que ce soit les mini-pinements, que ce soit les tomates, que ce soit n'importe quoi, les abricots, nous, on séchait tout.
Oui, c'est
donc
vrai.
Donc, ça prenait moins de place et on mettait dans des cornets en papier.
Je pense que c'est une bonne idée de sécher. D'ailleurs, moi, j'avais vu pour les champignons, il y a un appareil qui permet de sécher les champignons.
Oui.
On peut aussi mettre pas que des champignons, hein, parce qu'à la base, moi, j'avais vu ça. Et en fait, on m'a dit qu'on pouvait mettre des pommes, on peut mettre des fruits, on peut mettre de l'ail des ours. Donc, si vous avez envie de conserver un peu plus longtemps et de préserver certains... Alors, j'imagine qu'on perd peut-être en nutriments, en substances, mais n'empêche que ça permet de les garder plus longtemps. Joël ?
Voilà. Ces appareils, c'est fantastique, mais avant d'en acheter un neuf, regardez sur les réseaux, il y en a toujours à vendre.
Oui, c'est vrai.
Donc si jamais, c'est peut-être quelqu'un qui l'a peut-être utilisé une ou deux fois, et du coup, ça traîne dans son armoire, il se dit, hop, je le mets en vente à 15 balles, achetez celui-là, c'est en bon fonctionnement. Profitez-en.
Elvio, bonjour Elvio, parce que je crois que dans le tour de table, il me semble que j'ai fait un gap ou pas ?
Non, je crois que...
Non. Alors, j'ai eu un gros doute. Ouais. Si c'est le cas, je m'en excuse. Elvio, qu'on retrouvera dans les prochaines émissions pour sa rubrique La Minute d'Elvio.
Avec plaisir. Joël, j'ai une question parce que hier on a eu une discussion à la buvette et vous m'avez parlé de carton, je crois, qu'on peut récupérer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, je n'ai pas le droit de vous dire qui est le hard discounter qui fait ça, mais il faut aller assez tôt le matin. Donc, je peux vous dire que c'est un magasin qui ouvre à 7h30, qui est situé à Colombey. Et si vous allez tout de suite à 7h30, vous avez des cartons de fruits et légumes à un prix minimum. Moi, je suis allée acheter, il faut aller assez tôt, hein. J'ai trouvé donc des avocats, tous des trucs, des grenades, quand même tous des trucs qu'on paye assez cher, des aubergines, tout un tas de choses. C'est vraiment très avantageux. Par contre, il faut soit vous les consommez tout de suite, soit vous les cuisinez tout de suite pour les conserver, parce que c'est des légumes qui arrivent en fin de vie.
Ouais. Alors moi j'ai eu, en tout cas, quand on parle de gaspillage, je trouve que l'invention de l'économe, alors je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est dans ce terme-là, j'imagine. Marie, prenez seulement un micro, Marie. Bonjour Marie.
Oui, bonjour, l'économe, c'est un outil pour éplucher et enlever le moins possible en fait de peau pour garder les vitamines. Impeccable, quoi.
Voilà, et éviter de le gaspillage, parce que à l'époque, quand on épluchait la pomme de terre, moi, avant que je connaisse l'économe, ça date depuis déjà des années, je sais pas, certainement 60, 70, j'en sais rien. Peut-être qu'on ira une fois à la recherche de savoir quand c'est que ça a été inventé. Mais c'est vrai, quand j'ai découvert ça, avant, quand j'épluchais la pomme de terre, bah, on en laissait toujours un peu trop, hein, dans la pelure. Et avec ça, c'est vrai qu'on évite la gaspille, Joël.
Exactement, on évite le gaspillage. Par contre, il y a beaucoup de légumes qui, eux, sont déjà propres. Il vous suffit juste d'enlever, ben, par exemple, la carotte.
De les gratter un petit peu avec le couteau.
Soit gratter les parties qui sont un petit peu abîmées. Enlever le...
Ah,
j'ai perdu
le pédoncule.
Voilà, ouais, pédoncule. Enlever ça et puis bien les laver et vous gardez tous les nutriments parce que dans la peau, il y a énormément de nutriments. Bon, après, l'économe, je pense qu'il n'y a plus un seul ménage où il n'y a pas un économe.
Merci, Suzanne. Alors, on va passer la parole à Suzanne. Suzanne. Bonjour, Suzanne.
Bonjour. Joël. Bah maintenant, j'ai perdu le fil avec Jimmy. Dans une pipe, désolé.
Eh ben vous savez quoi, le temps que vous retrouvez le fil, moi je vais vous poser une question pour voir si on a vraiment des vrais économes et des gens qui vont jusqu'au boutiste du non-gaspillage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pelures de nos légumes une fois épluchés? Parce que moi je suis d'accord avec vous Joël, on peut simplement gratter. Après il y a des habitudes, des gens qui épluchent. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces pelures? Alors attention, Suzanne.
On peut faire du compost.
Alors, on peut faire du compost, c'est vrai, ça c'est très intéressant, mais si on peut, dans le principe que ça peut être encore mangé, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, on va redonner le micro à Suzanne.
C'est des grandes boîtes en carton, dedans il y a des vers de terre, et on balance le compost et ça sort du compost.
Alors, on a parlé de compost là, mais là, on a peut-être autre chose. Marie, je sens qu'elle a la réponse au bout de la langue. Du bouillon?
Ah oui, bien sûr, des excellents bouillons.
On peut faire des excellents bouillons, et peut-être que vous ne le savez pas, mais on peut faire de magnifiques chips. Parce que là, moi, j'ai découvert ça dans cette émission. Hein, on va la citer quand même, c'est pas grave. Hein, ça s'appelle Top Chef, où ils avaient une épreuve où ils ne devaient rien gaspiller. C'est-à-dire, du moment où ils ont pris, ils devaient tout cuisiner et il devait y avoir zéro déchet. Parce que là, on parle de zéro déchet. Et là, à ce moment-là, j'ai vu qu'ils avaient fait des chips incroyables de carottes, de pommes de terre, de plus de pommes de terre. Donc, avis aux amateurs, allez tester. Là aussi, on préserve aussi la suite.
J'ai juste pas fini, donc mon fils il fait d'abord le compost avec les verres, ensuite il met de l'alcool dedans, il le laisse macérer, et après il utilise un déci pour 10 litres d'eau, et il est arrivé jusqu'à multiplier sa production avec ce jus qu'il a fait fabriquer lui-même, et il est allé dans un contest de jardiniers. Et tout le monde voulait lui acheter sa bouteille. Et une fois que ça a démarré, maintenant, son compost, il y va. Et donc, il est obligé de faire le tour des grands hôtels bio pour pouvoir avoir assez de marchandises à fournir à ses verres à compost.
Eh bien, tant mieux pour cette idée. Et puis, ça permet effectivement de préserver et de fructifier tout ça. Moi, j'avais envie de revenir avant qu'on passe à une petite page musicale. Vous avez parlé de Too Good To Go. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cette application et ce fonctionnement-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment très, très important et qui est vraiment très bien.
Alors, Too Good To Go, c'est une application anti-gaspi, justement. Il y a beaucoup de commerces et aussi de grandes surfaces qui utilisent ce Too Good To Go, justement, pour pouvoir liquider donc, la marchandise et éviter...
Excusez-moi, Joël, j'ai pas compris le nom du site.
C'est Too Good To Go.
Ah, Too Good To Go. Voilà.
Merci.
Et là, au fait, vous devez réserver un panier directement sur Internet. Donc, vous téléchargez l'application Too Good To Go. Vous réservez votre panier. Donc, ça peut être chez un boulanger. Ça peut être dans une grande surface qui peut proposer soit des fleurs, soit des paniers de fruits, soit des paniers que de légumes, soit du takeaway. C'est souvent le takeaway. Voilà. Il y a plein d'entreprises, en tout cas autour de chez nous, dans la région, qui utilisent ça pour liquider leurs invendus et d'avoir à limiter la casse. Et vous allez en fin de journée chercher votre Togo Togo. Et il y a des choses, parfois, il y a de très très belles surprises.
Ouais.
Je suis allée dans une boulangerie une année et je me suis retrouvée avec un immense gâteau de la fête des mères.
En tout cas, ça c'est un super tuyau parce que d'une part, on est attentif à la gaspille et on est attentif à son porte-monnaie. On se retrouve d'ici quelques instants après cette magnifique musique de Johnny Hallyday qui s'intitule « Je suis seul ». De retour après cette magnifique musique de Johnny Hallyday, il est 15h48, on retrouve les rencontres de Marie-Claude. Chaque jeudi, une personne se raconte autour de Malévo, de son parcours. Aujourd'hui, Marie-Claude Cudry a rendez-vous avec Gustavo Goldenberg. On commence par les présentations. Alors attention, les présentations vont arriver d'ici quelques minutes. On est parti.
Les rencontres de Marie-Claude.
Je suis le docteur Gustavo Goldenberg, je suis médecin psychiatre. Alors, pourquoi la médecine, pourquoi la psychiatrie? D'abord, pourquoi la médecine? C'est parce que c'était quelque chose que depuis, bon, on dirait, beaucoup de gens ont la même idée. Depuis tout petit, je voulais être médecin. Alors, j'ai étudié en Argentine. J'ai travaillé déjà en tant que médecin en Argentine et dans des services de santé mentale, mais je n'avais pas fait la spécialisation en psychiatrie. On travaillait plutôt dans la thérapie des familles. Et voilà, une expérience qui a duré un bon moment. Et puis que par la suite, je suis venu en Suisse. Et c'est là où j'ai enclenché mon parcours, disons, traditionnel dans la psychiatrie. Alors, j'avais pensé faire la psychiatrie de l'enfant. En Argentine déjà. Mais ça n'a pas marché. Et après des examens, je n'ai pas pu entrer. Et puis j'ai bifurqué et j'ai commencé la thérapie de famille, où je voyais des enfants, évidemment, indirectement.
Qu'est-ce qui vous a amené en Suisse?
Et ma femme. En général, c'est comme ça. Et la situation en Argentine était moins catastrophique qu'aujourd'hui. Mais voilà, on pense que chaque année, c'est le pire, mais toujours, il y a une amélioration dans ce sens, une péjoration dans ce sens. On se disait, OK, on habitait la capitale, on va soit à l'intérieur du pays, soit on va à l'étranger. Alors, ça fait que, voilà, on a pu venir et puis, voilà, au défi d'une aiguille, nos filles sont nées. Et la situation du pays qu'on pensait s'améliorer avec les années n'a pas changé. Et puis, ça nous a décidé de rester en Suisse, finalement. Et puis, pourquoi je suis arrivé ici, c'était après avoir fait 2 ans à Sierre, je me suis dit, il me manque l'hôpital, faire la formation dans un hôpital psychiatrique. Alors, je suis venu parler avec le docteur Caron, qui m'a dit, oui, oui, vous pouvez commencer, chose que j'ai fait. Et puis, ça m'a permis de parcourir, sauf, je dirais, sauf la psychiatrie de l'enfant, toutes sortes d'aires de la psychiatrie, en commençant par l'admission, et plus tard, les longs séjours, et la réhabilitation, et encore la psychiatrie de la personne âgée. Alors, voilà, je pense que je suis un généraliste de chez les généralistes de la psychiatrie. Et puis, évidemment, ça m'a donné énormément d'éléments parce qu'à chaque fois qu'on va dans une sous-spécialité, si on peut dire comme ça, il faut lire, il faut aller à des congrès, des réunions, etc. et se former justement pour ça. Sans oublier aussi qu'à un moment donné, des autres collègues installés, ils voulaient passer la main par rapport à ce qui s'appelait à l'époque l'handicap mental. Et l'institution, la FOVAM, avait contacté l'hôpital pour voir si quelqu'un pouvait venir justement vers eux pour s'occuper de cet aspect de la psychiatrie et de ses patients. Je me souviens de la réunion avec tous les chefs de clinique, les médecins adjoints. Et puis, au moment où le directeur a présenté, il a dit, bon, qui aimerait faire ça? Et personne n'a levé la main, quoi, sauf moi. Alors, je dis, bon, pour moi, c'est encore un défi. Je crois que ça vaut la peine de voir tout ça. Et puis, c'est vrai, j'ai contacté d'abord les collègues installés qui m'ont passé les dossiers. Et puis, un des collègues m'a dit, bon, je travaillais 15 ans. Et je dis, waouh, 15 ans! Et dans ces domaines, c'est beaucoup. Alors, pour finir, j'ai travaillé 17 ans et quelques. Et sincèrement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'était tout un défi. D'abord, les résidents qui portent une maladie psychiatrique, en plus maintenant de la déficience intellectuelle. Et aussi, travailler avec les familles et puis travailler aussi avec les éducateurs. Parce que je me suis dit, sans tous ces éléments autour, et c'est là la théorie systémique qui m'a permis de voir si clair les choses, je ne pourrais pas changer les choses que je veux changer.
Gustavo Goldenberg a travaillé comme médecin ici à Malévaux. Il se considère comme un généraliste de la psychiatrie. On va le retrouver ces prochains jeudis au micro de Marie-Claude Cudry. À l'issue du dernier épisode, vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site de pavillonnomade.ch. Alors, on a entendu pas mal de choses hein, dans ce premier opus hein, de son parcours en Argentine, en commençant par la psychiatrie de l'enfant, thérapie familiale, de cette vie peut-être aussi et moments l'âge où il avait de périodes difficiles hein, en Argentine, hein, où peut-être les tensions politiques ou le système a fait qu'à un moment, il y a eu cette remise en question. Hein, on pourrait parler peut-être pas d'exil, mais presque en Suisse. Hein, et en fait aussi, on se rend compte qu'il le dit, c'est par amour aussi. Hein, il n'y avait pas que seulement l'envie et que les problèmes, hein, mais il y a aussi l'amour qui l'a ramené aussi en Suisse. Il a parlé aussi d'admission, long séjour, réhabilitation, aussi de personnes âgées. Comme nous a dit Marie-Claude Cudry, qui se considère comme un généraliste de la psychiatrie. J'aime beaucoup cette définition. Il a parlé de défi aussi. Il a parlé de systémie. C'est-à-dire, de systémie, c'est que sans toutes les personnes qui gravitent autour d'un patient, ou s'il n'est pas pris en compte, ben, on a de la peine à peut-être proposer ou en tout cas accompagner. Que vous inspire déjà ce parcours de vie ? Alors, on va donner la parole à Joël.
Alors déjà, je trouve que c'est fantastique parce que c'est quand même le psychiatre, le médecin psychiatre, il a quand même plusieurs casquettes. Il ne se limite pas juste à prescrire des médicaments et à discuter avec vous. Il tient compte aussi de vos douleurs. Il tient compte aussi de vos problèmes physiques. Il vous envoie chez des spécialistes. Il fait le maximum pour que vous vous sentez mieux, pour qu'aussi dans votre tête, vous allez mieux. Donc, moi, je trouve que son parcours, il est absolument extra, quoi. C'est vraiment un chapeau.
Ben, merci. Alors, Elvio ?
Oui, là, j'ai trouvé aussi très important la relation qu'il entretient avec les familles, en fait. Et ça, je pense que, en tant que médecin psychiatre, c'est grâce déjà à eux qu'ils peuvent des fois comprendre la maladie de leurs proches, et souvent ça peut aussi rassurer les proches, et ça peut permettre d'être une nouvelle ressource, un nouveau soutien, les proches, quand ils ont compris que la personne est souffrante d'une souffrance psychique, en fait.
Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont envie de rebondir sur ce qui vient de se dire et s'échanger après cette première opus. On a Fabrice. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Dites-nous.
Alors, moi, j'ai simplement un petit truc à dire, c'est que personne n'a fait la remarque, mais en fait, c'est simplement un exemple pour tous. Cette personne, elle a appris en Argentine au début, elle s'est battue dans son pays, et puis pour finir, elle est venue en Suisse. Et elle a continué à étudier, elle a continué d'apprendre, vu son métier, pour aider les autres. Et ça, je trouve que c'est un exemple formidable, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'envie de se plaindre plutôt que de se donner de la peine ou bien de se surpasser. Et là, on voit quelqu'un qui s'est battu et puis qui a réussi. Ça veut dire que c'est possible à tout le monde de pouvoir apprendre autre chose, de se renouveler ou simplement de s'améliorer.
De s'améliorer, voilà. De se redéfinir, c'est vrai, vous avez raison. Jean-Luc, je ne sais pas si vous avez envie de partager avec nous, peut-être, après tous ces échanges qu'on a, quel regard vous portez-vous sur le monde médical ?
Eh bien, voilà, je suis Jean-Luc. Ce que je voudrais simplement dire, que c'est effectivement que si on n'avait pas ce monde médical, eh bien, on aurait beaucoup de beaucoup plus grands problèmes. Le monde médical est quelque chose qui englobe, je pense, l'ensemble des maladies, mais qui comprend aussi la psychiatrie. Et je peux en parler parce qu'actuellement, je suis à Malévaux et je suis en traitement pour un burn-out. Et effectivement, on a des hauts et des bas, mais on sent quand même entre l'ambiance, le soutien par les infirmiers, les médecins et les médicaments, on sent que l'amélioration vient gentiment. Mais aussi, il y a aussi une part de foi qui fait qu'on peut grandir dans cette amélioration.
Merci de votre partage, Jean-Luc. Suzanne.
Moi, je dirais oui à la médecine. Oui, à la psychiatrie. Et si on n'avait pas ça, bien que des fois, c'est aléatoire, hein, mais franchement, si on n'avait pas ça, si on n'avait pas les hôpitaux psychiatriques ou somatiques ou ce que vous voulez, je crois qu'on serait déjà là-bas dessous, quoi. Parce que vraiment, on traverse dans la vie des problèmes, des fois, terriblement cruciaux, et il faut se battre, et il faut de l'appui, et bien sûr médical, psychiatrique et thérapeutique. Et ça, par exemple, la radio, c'est
un moyen d'expression qui permet justement à ceux qui veulent parler de décharger un peu. Et non seulement la radio, mais vous avez des ateliers ici qui sont sensationnels, des artistes sensationnels, et pourquoi pas en user. Revenez après votre hospitalisation. Personnellement, je ne suis pas hospitalisée à ce moment. Mais revenez, parce qu'il y a vraiment de quoi se soigner.
Merci pour ce partage et cet échange. Christine.
Oui, moi, je voulais dire que j'ai eu 30 ans de psychiatrie, dont en tout cas 20, qui étaient absolument contre ma volonté. C'était beaucoup de la pression de la famille, de la pression des institutions pour m'enlever la garde de mes enfants si je ne suivais pas mon parcours thérapeutique qu'ils voulaient. Mais les 10 dernières années, j'ai décidé de prendre un autre virage. J'ai ma meilleure amie qui a fait l'école de médecine douce et de médecine à Lausanne. Et elle a pris chaque molécule qu'on me donnait et elle les a transformées en molécules naturelles. Et elle a pu à peu près 2/3 des médicaments à 2500 francs que je prenais par mois. Elle a pu à peu près transformer les 2/3 en médicaments naturels. Et ça m'a fait remonter la santé d'un bon bout, parce que j'ai vraiment du mal à avaler les pastilles, je ne peux plus, ça me sort par le nez. Et là, ça m'a fait vraiment un grand bien. Et puis la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi j'ai vécu beaucoup en Afrique et en Asie, où il y a, et en Amérique du Nord ou du Sud, où il y a les fous dans les rues, comme ils disent, parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas des hôpitaux pour. Mais qui c'est qui s'occupe d'eux? C'est leur famille. Et ici, la famille, elle est où? La famille des malades psy?
Eh ben, ça pourrait être le thème, peut-être.
Elle est en tout cas pas dans ma chambre.
Non, ouais. Ça pourrait être le thème d'une prochaine session en parlant de la famille. Suzanne.
Christine, bravo. Je vous dis bravo, mais pas pour la sélection des médecines parallèles et les autres médecines qu'on a ici. C'est-à-dire la chimie qui est dans nos pathologies absolument primordiale. Moi, je vous dis mon parcours en bref. 22 ans de traitement seul, avec le médecin, bien sûr, des ordonnances, mais même pas de thérapie. Mais 22 ans où j'ai décidé... Un jour, j'ai dit maintenant stop, Suzanne, tu arrêtes avec tes allées et venues dans les cliniques. Ça faisait quand même 27 ans auparavant que j'allais et venais. Et j'ai dit maintenant stop, Suzanne, tu vas bouffer tes pastilles. Et je l'ai fait pendant 22 ans. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, ça m'a permis. Ça, c'est. La chimie, c'est un pilier, je vous dirais même que c'est un pied de chaise, mais il y a 3 autres pieds de chaise pour après s'asseoir dessus. Donc il le faut, ce pied, c'est primordial. Et les plantes et tout au truc, c'est très bien, mais... C'est pas ça.
Alors, on peut chacun avoir des avis différents. Je pense que c'est propre à chacun, mais toute médecine alternative peut être un plus ou peut-être même aidant. Hein. D'ailleurs, il y a un très joli reportage pour ceux qui seront intéressés sur Arte, hein. Soigner autrement, la voie de la transe. Hein. Alors, je vous invite à aller sur le site internet pour découvrir on va parler un peu de cette méfiance dans notre société, mais je pense que ça peut être aussi une ouverture d'esprit. Je pense que tout est bon du moment qu'on y donne du sens. Vous aviez envie de rebondir, Marie?
Oui, bah exactement de ce que vous venez de dire.
Alors, allez-y, vous pouvez renforcer mes propos.
J'entends bien les témoignages de Suzanne et de Christine. Je suis moi-même aussi une femme âgée. J'ai eu la chance d'avoir très peu fréquenté les institutions psychiatriques et d'avoir pu me passer de médicaments pendant de nombreuses années. Et ce sont les meilleures années que j'ai passées. Donc, je veux dire, on a vraiment des parcours qui sont très variés et qui sont complémentaires. Il n'y a pas tortillé. Je veux dire, il y a autant d'êtres humains, de quatre figures, je dirais, que d'êtres humains. y compris pour la psychiatrie et pour, tout, pour toutes les autres pathologies. Je veux dire, alors c'est clair que quand on est soigné d'une façon qui nous fait du bien, on a envie de dire, mais c'est ma solution est la meilleure, parce qu'on en est tellement, tellement content.
Mais vous avez raison de rappeler ça. Je vois que c'est la voix de la sagesse hein, qui nous permet d'échanger. Merci Marie, en tout cas, d'avoir pris le temps de donner aussi votre position. On se quitte un court instant, parce que qui dit argentin, on ne pouvait passer à côté, Elvio, d'une musique qui fait qui va en lien avec les origines du docteur Goldenberg. Je me réjouis de découvrir dans son prochain opus. La musique, c'est de Oblivion, Astor Piazzolla. Magnifique tango de Astor Piazzolla. Je ne connaissais pas du tout cet artiste, ni même ce morceau. Franchement, je vais aller le découvrir, si vous voulez aller le découvrir, Astor Piazzolla. Eliane, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve.
Oui, me revoilà.
Vous revoilà. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi ? On va lancer d'ailleurs le jingle d'abord. Lançons le jingle.
Dans la ménagerie d'Eliane.
Aujourd'hui, je vous emmène en voyage en Afrique, le Kenya, la Namibie, pour découvrir un animal méconnu et souvent oublié du grand public, le zèbre. Il appartient à la famille des équidés, comme le cheval et l'âne. Il semblerait que ses rayures servent à se dissimuler dans la savane. Chaque animal a ses propres rayures, comme nous, nos empreintes digitales, en fait. Les poulains reconnaissent leur mère grâce à ces motifs. Les scientifiques se chamaillent toujours encore sur l'utilité de ce pyjama noir et blanc. Ces rayures lui permettent d'avoir une sorte de climatisation intégrée, car le blanc et le noir chauffent différemment au soleil. Cela crée des petits courants d'air au ras de la peau, ce qui l'aide à évacuer la chaleur. L'anti-moustique, la mouche tsetse et les insectes en général détestent se poser sur des surfaces rayées. Les contrastes perturbent leur vision. Quand ils courent en troupeau, toutes ces rayures brouillent la vue. Pour le lion, par exemple, il lui est difficile de viser un seul zèbre et de juger de sa vitesse. En fait, dans la savane, tout le monde veut le manger. D'ailleurs, 50% des zébraux meurent dans leur première année.
Merci Eliane pour déjà cette reprise de cette rubrique. J'attendais le jingle qui n'est pas parti, mais c'est comme ça, c'est ça aussi le direct, c'est aussi ça le live, hein, où on s'adapte aux petits aléas. Moi j'ai entendu quand même quelque chose qui, alors je sais pas si ça va marcher, hein, parce que moi j'ai les moustiques, j'en ai horreur, mais je sais pas si je vais pas tester quand même de me faire des rayures sur la peau et les bras pour voir si les moustiques vont pas manger. Fabrice, vous aviez envie de rebondir pendant la rubrique.
Je voulais simplement dire à Eliane que effectivement, les rayures des zèbres, c'est d'abord pour enlever les bêtes, pour pas qu'ils se fassent piquer et tout ça. La preuve, sur les chevaux, on met des couvertures. Les zèbres, ils sont comme ça. Et effectivement, après, ben, c'est la savane. Et puis, chaque animal doit se protéger et manger. Alors, effectivement, les zèbres, c'est très compliqué à attraper. Mais effectivement, je connaissais bien les zèbres par rapport aux animaux, aux petites bêtes qui emmerdent, qui sont sur les herbes. Et Eliane l'a très bien dit.
Eh ben, merci.
Juste rebondir.
Allez-y, Eliane.
Les scientifiques, ils ont fait des essais. Le cheval déguisé en zèbre, en gros. Et il a été prouvé qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'insectes. Hein, parce que le zèbre, c'est pas un animal domestique. Hein, c'est un animal sauvage. Et il rue, il mord. C'est pour ça qu'on dans les réserves, ils en ont, mais c'est plutôt le garde-manger, si je puis dire. Mais c'est pas un animal sociable du tout. Voilà, j'avais juste envie de rajouter cette
information. Suzanne.
Moi, j'aimerais juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait de celui ou celle qui est fribourgeois?
Qu'est-ce qu'on fait de celui qui est fribourgeois? Alors, j'ai du mal à voir le lien avec la ménagerie dernière, mais peut-être qu'Elvio va pouvoir nous faire raccrocher le wagon. Elvio.
Oui, bon, c'est le drapeau fribourgeois qui est noir et blanc, n'est-ce pas, Suzanne?
Ah, voilà pourquoi.
Un drap dessus, un drap dessous.
Oui, puis il y a les vaches fribourgeoises aussi qui sont noires et blanches.
Ah, ouais. J'ai eu peur, vous allez me dire qu'elles sont aussi zébrées. Alors, si les vaches fribourgeoises sont zébrées, c'est que là, il y a quelque chose qui ces fribourgeois sont vraiment quand même à part. Alors.
D'ailleurs, la pure race, en fait, s'est éteinte depuis déjà quelques dizaines de... une centaine d'années en fait, je crois même, parce que elle était beaucoup plus massive avant la vache fribourgeoise, et là maintenant avec les tests ADN qu'ils ont fait, il y a eu des mélanges et avec des simmentales, je crois, et du coup la pure race fribourgeoise a disparu.
Et ben voilà une information en plus qu'on a. Alors Christine, on va vous donner un micro, Christine, sinon on va pas pouvoir vous entendre.
J'avais une dernière petite chose à dire. Quand j'ai étudié la microbiotique, j'ai appris que les animaux, les humains et les fruits et légumes fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que à la surface, il y a 10 à 100 fois le pouvoir de guérison ou d'attaque que quand on est à la surface de la peau. Alors la surface, il faut pas l'enlever. Il ne faut pas peler les légumes parce que c'est là-dedans qu'il y a le plus de défense de la pomme ou de la poire. Il ne faut pas enlever les plures des légumes non plus, parce que tout ça, c'est concentré dans la plure.
Eh ben, merci ce petit rappel pour le premier échange qu'on a eu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte un court instant avec une chanson. Alors, je ne sais pas si ça va faire fuir les moustiques, mais en tout cas, ça vous fera danser. C'est Number 5 de Lou Béga.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me definitely sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Mambo Number 5, en tout cas moi ça m'a rappelé quelques soirées d'il y a quelques années en arrière, parce que je crois que cette chanson elle a en tout cas presque 20 ans me semble-t-il, si ce n'est peut-être pas plus, vous pourrez aller voir sur internet, mais moi ça m'a renvoyé il y a 20 ans en arrière, c'est que je prends de l'âge. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Fabrice, vous avez proposé aujourd'hui qu'on puisse aborder un thème qui me touche aussi personnellement, qu'il s'agit de la tendresse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous nous proposez ce thème ?
Alors, j'ai proposé ce thème, la tendresse, parce que plus les années passent, plus les gens grandissent, plus les gens vieillissent, on oublie de se prendre dans les bras, on oublie de tenir la main de sa copine, on oublie de partager à deux, à trois, à quatre, en famille. Et puis, partager la tendresse, ça nous aide, c'est un point positif qui peut nous amener à faire des choses qu'on n'a peut-être pas eu envie de les faire avant. C'est pour tout le monde, la tendresse, c'est pour tout le monde presque obligatoire, je dirais. Parce qu'on a tous besoin de pouvoir, une fois ou l'autre, se pencher sur quelqu'un, de prendre quelqu'un dans les bras, de pouvoir aussi discuter de ses malheurs, de ses bonheurs. Et puis c'est vrai que la tendresse, c'est l'ensemble de toutes ces belles choses qui font que dans une famille ou dans un couple ou dans la vie en général, tout le monde est de bonne humeur et content et ça leur apporte beaucoup de choses. Voilà.
Merci déjà de nous mettre le pied à l'étrier. Vous avez dit, on a perdu. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre société, parce que la société, c'est nous, autour de la table, quand on dit la société, c'est pas les autres, c'est nous tous. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir comme explication qu'on a peut-être moins de tendresse. Quelles seraient un petit peu les raisons ?
Alors moi, j'imagine un peu qu'à l'heure actuelle, ben, papa et maman travaillent, que les enfants sont dans la maison, et puis que les enfants leur donnent un attel pour qu'ils ne nous embêtent pas, parce que papa et maman sont fatigués du travail. Alors on laisse les enfants devant la télé, ou devant les jeux, ou devant le attel. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Comme nous, à l'époque, on n'avait qu'un canapé avec une télé noir et blanc. Eh ben, on était sous les genoux de papa, on était sous les genoux de maman, et puis on partageait comme ça, et puis on se tenait la main quand on allait à l'école, et puis on partageait de la tendresse. Et aujourd'hui, on peut regarder tout autour de nous, qui c'est qui partage encore quelque chose avec quelqu'un, à part du bénéfique, de l'argent, ou je sais pas, mais ce qui est la tendresse, c'est personnel, c'est intime, ça se passe à l'intérieur de son cœur, et c'est un partage qui est pour moi... très élevé, et ça aide les gens qui sont malades et qui sont pas bien, et avec cette tendresse, bah, c'est vrai qu'on peut améliorer ces difficultés que certaines personnes ont, et trouver son bonheur aussi à travers la tendresse.
Bah merci déjà pour ces premières hypothèses, hein, parce que ça reste des hypothèses, mais que je partage en général, hein, le fait que peut-être aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la technologie, bah on a plus tendance à être dans cette immersion avec ce monde-là et moins porté sur les autres. Alors peut-être que c'est une des raisons possibles. Alors je ne sais pas, autour de la table, quand on vous dit tendresse, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Alors, Joël. Alors, le temps que Joël prenne un micro.
Voilà, bah pour moi, ça évoque... la tendresse, c'est d'abord dans le regard. Il n'y a pas besoin de dire des mots ou de prendre les gens dans ses bras. C'est le regard. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Fabrice, mais ça existe encore, la tendresse. Vous savez, aujourd'hui, on vit aussi une époque qui est très compliqué, il y a des guerres partout, tout a augmenté, tout est très cher, tout est... C'est vrai, c'est pas facile pour les jeunes parents de pouvoir élever leurs enfants, parce que quand on devient papa ou maman, moi j'ai pas eu d'enfant, hein, mais quand on devient papa et maman, ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur, le mieux pour ses enfants. Donc la tendresse, je pense plutôt qu'elle a changé plutôt... que comme ça se faisait avant. Moi, mes parents, la génération de mes parents, c'était des baby-boomers. Ils étaient 7, 8 dans une famille. C'était dur pour les parents aussi. Ils n'avaient pas forcément le temps de faire un gros câlin à chacun. Ou de... Voilà, chaque époque a sa façon d'exprimer sa tendresse. Mais par contre, c'est assez juste ce que vous dites, Fabrice.
Vous avez raison, Joël, de dire que chaque époque a sa manière de montrer et chaque famille a sa manière de l'exprimer, de l'apprendre. Hein. On ne peut pas être tendre, ce n'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas avec la tendresse, on l'apprend. Et si on n'a pas eu les modèles ou si on a eu des parents qui ne nous ont pas donné de la tendresse, bah, si on ne l'a pas appris, c'est difficile après de la donner à un autre ou de se dire comment je la donne si on ne l'a pas vécu. Donc oui, je pense qu'il y a une partie, vous avez raison, dans notre société qui évolue, une surcharge, mais n'empêche que ça n'empêche pas. Moi, j'aimerais poser la question à Marie. Marie, j'ai parlé tout à l'heure que j'avais pris 20 ans d'âge. Vous êtes une de nos aînées à table. L'évolution de la tendresse entre vos grands-parents et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a vraiment changé ou pas spécialement ?
Bon, alors là, ça c'est le grand sujet, hein, si vous me prenez avec l'évolution par rapport à mes grands-parents. Parce que, oui, la tendresse... Alors, moi, je veux juste dire un petit truc tout simple. Mes grands-parents, c'est des maternels, hein, c'est des agriculteurs d'une pudeur absolument... pudeur de chez pudeur. Et puis, en fait, je veux juste dire un témoignage de tendresse de personnes âgées, justement. Mais en fait, ils ont été comme ça depuis le début de leur rencontre, ça, j'en suis certaine. Je dormais derrière le rideau qui me séparaient le lit parce que j'étais en visite de leur propre chambre à coucher, dans leur chambre à coucher en fait. Et ce monsieur et cette dame qui avaient plus de 70 ans se couchaient et je les entends se faire une petite bise. Bonsoir mon chéri, bonsoir ma chérie. C'est tout, mais tout est dit. Parce que et tous les gestes tout, et tous les regards simples que j'ai toujours vécu avec eux depuis petite, parce que j'ai des très très beaux souvenirs de tendresse quand moi j'étais toute petite dans les jupons de ma grand-mère, mais tout m'est revenu et ou bien tout a été éclairé. C'est par ce baiser de leur vieillesse, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment quelque chose. Alors moi, j'aimerais dire quelque chose qui m'a enseigné, parce que ces derniers temps, j'ai vécu beaucoup dans les trains pour une situation particulière, et j'ai eu l'occasion de me trouver très tôt dans les trains. Et c'est une anecdote, mais qui rejoint Fabrice. Dans le sens où les familles peuvent encore faire quelque chose. Il s'agissait d'une jeune maman avec une petite fille et c'était 6 heures du matin. Donc, d'accord, donc c'est clair que cette femme, elle est en train d'emmener son enfant chez une maman de jour parce qu'il n'y a pas de garderie ouverte à ce moment-là. Et puis que c'était le moment qu'elle avait d'intimité avec son enfant, qu'elle avait dû réveiller, etc., puis qu'elle allait déposer. Et au lieu de laisser sa gamine être avec un portable à côté d'elle, puis elle sur le sien, ce qui était le cas pour d'autres à côté, hein, cette dame, alors, c'est dommage parce que le micro, on ne peut pas faire le geste, mais enfin, elle s'est mise à regarder sa fille, qui regardait un petit peu comme ça, droit devant elle, et puis elle a passé sa main sous le nez de la gamine pour attirer l'attention de l'enfant. Et elles se sont échangées des regards absolument pleins de tendresse. Et à ce moment-là, la maman s'est mise après à prendre sa fille sur les genoux et puis à lire un livre ensemble.
Ben merci pour cette anecdote, Marie, très touchante, parce que finalement, la tendresse est aller à la rencontre de l'autre et que ça va dans les deux sens. Si on veut que la tendresse existe, parce que la tendresse, c'est de l'amour, c'est qu'à un moment, ben, on doit faire le geste de... Ça me faisait penser dans les années 80, voire peut-être avant, hein, à l'époque où la Roumanie était malheureusement sous un diktat d'un dictateur, hein, Ceausescu, hein, ils ont, à la fin, à la Révolution... Ils ont retrouvé des orphelinats avec des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, qui n'arrivaient plus à parler, à se lever, à manger, qui ne tenaient plus. Et puis, finalement, ils ont simplement redonné de l'attention, redonné de l'amour, redonné de la tendresse. Et ces enfants qu'on pensait peut-être perdus, on les a vus dans quelques années après, quand ils sont revenus faire des émissions, reportages, on les a vus, bah, ok, il y avait des grosses carences affectives, des grosses carences physiques, mais ils avaient retrouvé l'envie de se mettre debout, l'envie de regarder l'autre avec tendresse, et simplement parce qu'on leur avait donné de l'attention, de la tendresse, on les avait enlacés, on les avait accueillis. Et oui, je pense, comme vous avez dit, Fabrice, la tendresse fait quelque chose, une partie sine qua non de notre survie de l'humain. Un enfant qui naît et que vous laissez dans son panier et que vous ne vous occupez pas de lui, et s'occuper de lui, c'est déjà de le prendre dans les bras, être attentif à ses pleurs, à ses cris pour savoir comment réagir, c'est de la tendresse. Sans ça, bah, il n'évolue pas. Et puis si on se donne simplement à manger, bah, il perd des fonctions. Marie.
Alors, je vais juste complètement compléter, parce qu'on nous apprend dans les professions psychosociales, etc., les travaux du docteur Spitz, où il a été expérimenté de ne pas donner d'attention relationnelle à des enfants et il meurt.
Oui, clairement, c'est tout à fait ça.
Précisément dans ces pays-là.
Oui. Christine, alors on va redonner le micro à Christine.
Oui, moi j'ai juste une dernière petite chose à dire, c'est que j'ai perdu mon père à 5 ans, il a fallu se lever le lundi matin et faire le ménage, faire la tondeuse et tout faire avant que maman et que les autres clients se lèvent, parce que maman voulait pas que les clients sachent qu'elle avait perdu papa et que c'était la concierge, parce qu'on était aussi propriétaire. Et moi j'ai passé mon enfance à faire la tondeuse, à faire des machines pour qu'on puisse aller en vacances à la mer comme tout le monde. La phrase de maman c'était toujours comme tout le monde, comme tout le monde. Et puis à 40 ans, je me suis assise sur ses genoux et je lui ai demandé de me prendre dans ses bras.
Ben merci. Et c'était aussi un moment de tendresse, comme quoi il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'âge pour partager la tendresse. Alors oui, c'est vrai, les modèles qu'on a, l'évolution, peu importe, on peut souvent trouver des raisons. Mais je pense que la vraie réalité, c'est simplement d'aller à la rencontre de l'autre. Alors je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a envie de rebondir sur ce thème de la tendresse. Suzanne.
Moi, je dirais qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu un brin de tendresse. Et je n'ai jamais connu ça, jamais. Et j'ai maintenant 69 ans et je ne l'ai jamais connu. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est en secret aimer mes enfants. En secret. Parce que je les aimais, mais je ne pouvais pas leur témoigner de l'amour. Et voilà, c'est triste, mais il y a possibilité, quand on vit ça, il y a possibilité de retourner la manivelle et apprendre à se sentir aimé. Et c'est ce que je suis en train de faire.
C'est important ce que vous dites, Suzanne. Merci de votre partage. Je dis déjà aussi que oui, c'est jamais facile de reprendre contact. Et je suis sûr que vous avez encore de très belles années à vivre, vous tous autour de cette table et vous, Suzanne, pour même aller à la rencontre de ses proches et repartager des moments de tendresse, même s'ils n'ont pas été là au début. Par contre, ce que vous disiez à la fin, c'est la tendresse, c'est effectivement à l'autre, mais c'est aussi à soi. C'est aussi la tendresse envers soi qu'on se donne pour apprendre peut-être à reconstruire des moments de tendresse envers soi-même pour pouvoir peut-être après le donner à l'autre. Suzanne.
Oui, moi je voudrais juste rajouter que mon fils, le 5 mai, il a eu 35 ans. Et je lui ai écrit une lettre, une petite lettre. Tu as manqué de l'essentiel, deux choses, mon lait maternel et ma tendresse. Mais sache que je t'ai aimé en secret. Et...
Il n'y a pas de souci, Suzanne.
J'ai signé maman et il m'a dit merci. Je l'ai envoyé sur WhatsApp, je n'ai même pas été à la poste. Je l'ai envoyé sur WhatsApp et après, ça a été vraiment quelque chose de magnifique pour moi. Je ne l'ai pas revu, mais ça a été vraiment magnifique. Parce que ça, le fait de l'écrire, de le dire à lui-même, eh bien, je ne l'avais jamais fait. Et ça, c'est juste magnifique.
Vous avez raison de terminer avec ce terme de magnifique parce que le merci qui vous a écrit, simplement, c'était cette reconnaissance, cette tendresse que vous lui avez témoignée à travers ces phrases et qu'il a su accueillir et vous remercier. On va finir tout doucement en tendresse. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités, à nos participants du jour. Un grand merci à Pascal Vigolo à la technique. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. Ah non, jeudi prochain, merci. Heureusement que mes chroniqueurs aussi autour de moi sont là pour me rappeler que jeudi prochain, c'est férié. Il n'y aura pas de Pavillon Nomade jeudi. Par contre, il y aura vendredi, à l'occasion de la Semditna, il y aura le vendredi une émission spéciale qui sera animée par Gabriel Binder. On retrouvera aussi le 10 mai important sur la RTS, dimanche 10 mai de 6h à 9h, Côté Jardin, émission qui sera ici faite, alors je ne crois pas que c'est en direct, hein, mais qui sera à la buvette, vous allez pouvoir retrouver. Et puis, n'oubliez pas, en parlant de jardin, vous avez toujours la possibilité d'aller acheter les plantons à l'entrée de l'hôpital de Malévo. Les heures d'ouverture, peut-être, Elvio. Alors, le temps qu'on rééquipe Elvio.
Voilà, alors les heures d'ouverture, c'est tous les jours, donc du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
On se quitte avec la magnifique chanson de André Bourvil qui s'intitule « La tendresse ».
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non.
on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.